Complètement. Je constate, nous on fait beaucoup d'interventions aussi en hôpitaux, en autres associations qui gèrent les addictions. On s'aperçoit qu'on a des points communs. Juste par le partage, nous c'est un peu notre façon de faire en tout cas. Les gens disent ah ouais, mais moi aussi je fais ça. On arrive à avoir un dialogue. Ils franchiront peut-être pas la porte aujourd'hui, peut-être pas demain. Aujourd'hui, il y a du présentiel. Il y a aussi beaucoup de réunions en visio qui permettent aux gens qui sont loin de réunions physiques de pouvoir participer toutes les semaines. Il y a des gens qui se rencontrent ce week-end pour la première fois, qui partagent des choses hyper personnelles et pourtant, quand ils se retrouvent, c'est comme s'ils se connaissaient depuis 10 ans. Il y a plein de solutions en fait et c'est pas grave si quand on y va, on n'est pas concerné. Parce que même si on n'est pas concerné et qu'on s'en aperçoit, il y a peut-être quelqu'un dans mon entourage qui peut l'être et c'est pas grave, tout va bien. Et au pire, on a appris quelque chose et il n'y a rien à craindre. Et de toutes les façons, il faut savoir que chaque réunion ABA, Rouen, c'est mercredi soir et tous les premiers du mois, pour nous, les extérieurs sont invités. Les familles. On a eu ce week-end la maman d'une jeune femme hospitalisée actuellement, qui est venue par désespoir pour écouter, qui est repartie avec peut-être une petite notion d'espoir et je lui souhaite que ça s'arrange pour sa famille et elle. C'est ouvert aux extérieurs, aux journalistes, aux professionnels de santé qui savent plus comment parler de la maladie, aux familles, aux proches, aux conjoints, qui peuvent venir écouter, même si c'est pas forcément là où la personne concernée fait partie ou n'en fait pas partie, mais peuvent déjà venir s'imprégner. Il y a une partie réunion, on partage, il y a une deuxième, on échange, on débat. C'est vraiment toujours intéressant, je pense, pour les extérieurs de comprendre. On a eu la preuve avec le témoignage du conjoint aujourd'hui, qu'effectivement, il s'avoue ignorant et qu'aujourd'hui, il en sait un peu plus qu'hier et il en sait moins que demain. Mais il a pu voir que sa femme n'était pas seule et que ce qu'il comprenait pas, il l'a peut-être compris au travers d'autres personnes.
À écouter sur Radio HDR. Retrouvez les podcasts de Repartons sur Spotify et YouTube.
J'ai fait les deux jours, on est arrivé vers l'heure de midi, et puis là du coup c'est la fin de la convention, on a eu deux réunions hier et une plénière aujourd'hui. On a mangé du jambalaya, je ne connaissais pas mais c'est très bon. Il faut savoir que la dernière convention où j'ai participé, je n'ai pas participé au repas, et que là cette année j'ai enfin pu participer, manger comme tout le monde, et non j'ai pas anticipé, je savais même pas ce qu'on mangeait, la seule chose que je voulais c'est qu'il n'y ait pas de fromage. Seulement anorexique moi. Je pense que j'ai commencé à 10 ans, mais j'ai vraiment mis les deux pieds dedans vers 14 ans. Ça peut être progressif, au départ moi j'ai commencé par arrêter les féculents, arrêter le sucre, et puis petit à petit, arrêter les protéines. Je mangeais des noix de moins en moins. J'ai pas arrêté totalement de manger, je mangeais un jour sur deux. Et quand je mangeais, c'était trois pommes ou alors un café avec un carré de chocolat. Puis le peu que je mangeais, parfois ça m'arrivait de le vomir. Anorexie tout court, c'est le fait de pas ressentir la faim et du coup de pas manger. Anorexie mentale, c'est de s'empêcher de manger par peur, de grossir ou même avoir envie de disparaître. On peut se dire aussi que ça peut être une forme de dépression. Il y a un peu des deux, je pense que ça commence par de l'anorexie mentale, mais dans le cas de l'anorexie en maladie, ça commence par de l'anorexie mentale. Moi, personnellement, ça m'est arrivé, au bout d'un certain temps sans manger, de ne plus avoir la force de ressentir la faim. C'est-à-dire, mon corps me disait, même le signe de faim, je peux plus te l'envoyer, quoi. C'est déjà, tu tiens debout, c'est un miracle. Je suis allée très loin. J'aurais pu aller plus loin si j'avais pas été sauvée par certains médecins. Je suis allée très loin dans la maladie, pas aussi loin que je l'aurais voulu. Moi, mon objectif, c'était une vingtaine de kilos. J'ai réussi à aller jusqu'à 35. Les médecins m'ont alerté, notamment un médecin au CHU de Caen, qui m'a dit, écoutez madame, c'est la sonde, soit on se revoit plus, vous allez mourir. J'ai dit non, parce qu'il se trouve que j'étais majeure, et que si on se fait soigner lorsqu'on est majeur, on n'est pas prioritaire. De toute façon, on ne peut pas nous obliger à nous soigner. Parce que tant qu'on est mineur, on peut dire, écoutez, on vous met la sonde, point barre. Petite parenthèse, si vous souffrez de troubles du comportement alimentaire et que vous êtes encore mineur, c'est le moment de se faire soigner, parce que c'est là que va avoir tous les médecins derrière vous. Vous avez plein de droits. Donc vraiment, c'est le moment. Attendez pas que ça devienne ancré dans le dur. Donc je suis rentrée avec la sonde. Je mangeais soit trois pommes, mais pas plus trois pommes de 100 grammes pour être précis. Et quand j'avais de la famille j'essayais de manger un peu plus, toujours pas assez. Je partais du repas en catastrophe et puis j'allais vomir le peu que j'avais mangé. Je perdais mes cheveux aussi, j'ai les dents qui commençaient à pourrir à cause du vomissement. J'avais fait de l'ostéoporose, le corps lâche quoi, mais le pire c'était la tête. Le plus dur, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, ceux qui décèdent, alors certains décèdent de malnutrition ou d'un arrêt cardiaque, mais la majorité meurt du suicide. Parce que c'est beaucoup trop de pensées, beaucoup trop de malheurs, beaucoup trop de choses à gérer, parce que il y a un moment donné dans la maladie où on est dans le déni, et à un moment donné où on sait qu'on est malade, on n'a pas envie de s'en sortir, et quand on décide de s'en sortir, c'est là que c'est le plus dur, parce que c'est beaucoup plus simple de se laisser sombrer que de décider de remonter à la surface alors qu'on a des boulets accrochés aux pieds. Du coup là on se dit c'est trop dur, j'aimerais pas, si je dois souffrir toute ma vie, autant que ma vie s'arrête maintenant quoi. Je pense que c'est ça le plus dur aussi dans la maladie, c'est d'accepter de continuer à vivre, pas juste survivre, vivre, ça c'est différent. Oui, je pesais mes pommes, je pesais même parfois quand je mangeais des tomates cerises, quand je commençais à aller un petit peu mieux et que vraiment je mangeais, je pesais tous mes aliments, je connaissais les calories par cœur de chaque aliment, ou alors parfois au supermarché, je comparais les marques de haricots verts pour voir celles qui avaient 2 calories de moins, alors qu'en soi c'est des haricots verts quoi, donc on s'en fout un peu. Mes courses pouvaient prendre 2 heures, 3 heures, parce que je passais mon temps à regarder les dos des paquets. Bon, à la fin je connaissais un peu les marques, donc ça allait un peu plus vite, mais dès que je devais changer de magasin, je revoyais toutes les marques. Il y a eu quelques moments un peu compliqués, parce que les parents, c'est vrai qu'ils sont assez perdus, ils savent pas trop quoi faire. Je vais dire un truc horrible, mais ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire, ils sont impuissants. Tant que la personne n'a pas choisi d'aller mieux, elle ira pas mieux. Tant qu'elle n'a pas choisi de s'en sortir, ça n'avancera pas. Ils ont été là, ils m'ont soutenue. Je leur ai bien expliqué ce que c'était que la maladie. Eux-mêmes ont vu un psychiatre pour en parler avec lui. Ouais, non, ils ont été formidables. Beaucoup de soutien, ils m'accompagnent à mes rendez-vous médicaux. La première fois où j'ai été sondée, j'ai finalement décidé d'être sondée. C'est d'ailleurs une petite anecdote. Je travaillais dans un lycée comme surveillante.
J'avais 18 ans et je suis tombée dans les escaliers parce que mon corps ne me soutenait plus. Et c'était le lendemain du jour où on m'a proposé de mettre une sonde et que j'ai refusé. Et là, dans un élan de survie, je sais pas, mon corps, automatiquement, j'ai pris le téléphone et j'ai dit OK pour la sonde et je l'ai posée le lendemain. Ma mère a débarqué, elle était là avec moi. Ma première pesée après la sonde où je me suis effondrée en larmes parce que j'étais passée à 42 kilos. Pour moi, j'étais devenue énorme alors que 42 kilos, c'est rien du tout. Ma mère était là, elle m'a pas jugée, elle m'a relevée. Formidable, mon père, pareil, c'est aussi mon médecin traitant. Du coup, c'est lui qui examinait, qui essayait de montrer que ça le touchait pas, même si je savais que ça le touchait, de voir le potassium qui se cassait la gueule, des trucs comme ça. Donc j'ai eu des parents formidables, mais c'est pas le cas de tout le monde, je sais, mais s'il y a des parents, la seule chose qu'on peut faire, c'est écouter, ne pas juger, et savoir que de toute façon, comme on l'a très bien entendu ce matin, on peut qu'imaginer mais pas comprendre. Tant qu'on l'a pas vécu, on sait pas, c'est une maladie. Je pense que je suis née comme ça. C'est arrivé très progressivement. En fait, je me rappelle d'un moment où j'ai posé la question à mon père. Je dis « Papa, c'est quoi une calorie ?» Et qui m'a répondu basiquement « C'est une mesure d'énergie. » Et moi, j'ai trouvé sa réponse complètement nulle. Du coup, j'ai eu la très bonne idée d'aller sur Internet, de lire tout et n'importe quoi. Et quand t'as 10 ans, 10, 14 ans, je sais plus quel âge j'avais quand j'ai regardé ça, mais quand t'es déjà malade de base, parce que j'étais pas malade en regardant sur Internet, c'est faux, c'est arrivé avant. Ça n'a pas aidé de lire sur Internet, faut manger moins de calories, ça existe plus maintenant, je crois, mais à l'époque, il y avait les forums pro-ANA. Et je suis tombée là-dessus, et pour moi, c'était des filles qui faisaient un régime, quoi. J'avais pas compris que c'était des gens malades comme moi, qui donnaient des conseils pour être encore plus malade. J'ai appris à vomir grâce à ça. Même à la fin, ma fierté, c'était de vomir sans mettre les doigts. Non, il n'y a pas eu d'élément déclencheur. Je pense qu'il y a des profils qui font des bonnes anorexiques ou des bonnes boulimiques, ou les deux. Je pense qu'il y a des gens qui sont prédisposés. Des gens, je saurais pas les décrire, mais peut-être un peu perfectionnistes. Dans la maladie du contrôle aussi, c'est souvent une maladie du contrôle. Les gens qui vont reposer leurs petits crayons comme ça, qui vont vouloir être les meilleurs aussi, partout, tout le temps. Je pense que moi, je voulais être la meilleure en classe, mais je voulais être aussi la plus maigre du monde. Je voulais être la plus maigre du monde. Je connaissais le record du monde, je voulais faire mieux. Personnellement, j'en avais rien à foutre d'être jolie. Je voulais être maigre. C'est un jour, je me rappelle, c'est ma mère, elle dit « Mais qu'est-ce que tu veux ? Arrête, tu peux pas être juste mince. Je m'en fous d'être mince, je veux être maigre », je lui ai dit. Et comme il y a de la dysmorphophobie là-dessus, je me suis jamais vue maigre. Même à 35 kilos, pour moi, j'étais pas maigre. On voyait mes côtes, on voyait tous mes os. Je pouvais faire de l'anatomie sur mon corps. Je n'étais pas maigre. Pour moi, maigre, c'est le jour où je me serais choquée dans le miroir. Et en fait, quand j'ai découvert que j'étais malade, j'ai pas choisi de m'en sortir tout de suite parce que je pensais que je pouvais faire mieux. Tout le temps que je n'étais pas au fond du trou, tout le temps que j'étais pas la plus malade, personne n'allait venir me sauver et je pourrais pas m'en sortir. C'est-à-dire pour moi, tant que j'étais pas assez maigre, je ne serais pas considérée comme une bonne anorexique et du coup on ne pourrait pas venir m'aider. Donc voilà, j'ai voulu continuer pour être la plus maigre et me dire le jour où je me choquerai dans le miroir, j'aurai un déclic et j'irai mieux. Du coup, j'ai continué à maigrir dans l'espoir de guérir. C'est complètement bizarre. J'ai toujours eu des facilités à l'école, peut-être un peu dans la performance niveau scolaire, mais c'est tout. J'avais pas d'éléments de comparaison, parce que j'avais pas de frères et sœurs, j'avais pas de concurrents. Je voulais qu'on me regarde, peut-être. Je voulais que les autres me voient, parce qu'à l'école, par contre, c'était plus compliqué. J'ai été harcelée à l'école petite, parce que je m'appelle Manon, ça rime avec cochon, du coup ça les faisait rire. Parce que j'étais bonne à l'école, et ça c'est mal vu. Quand mon corps a commencé à changer, vers l'âge de 14 ans, là, je suis vraiment rentrée dans la maladie, même si j'étais déjà un peu dedans avant, j'ai eu peur. Ça, c'est un truc que je reproche à l'école. J'ai pas eu de cours d'éducation sexuelle. Je ne savais pas c'était quoi la puberté. En fait, on a vu c'était quoi un zizi. Voilà, c'est tout. Mais la puberté, on n'avait pas vu ça. Le fait que le corps change, je savais pas. Et je savais pas que dans ma famille, c'était d'autant plus présent qu'on prenait parfois beaucoup de poids, beaucoup de formes, rapidement. C'est peut-être 2-3 ans après que ma mère m'a dit « Ma tante, elle a pris 10 kilos lors de sa puberté. Après, ça s'est restabilisé et tout. » Mais ça, là, c'est une période un peu ingrate. Voilà. Ça arrivait au mois de novembre. Mais viennent ensuite les fêtes de fin d'année en décembre. Je me pèse et là, j'ai pris du poids. Et là, le raccourci se fait dans ma tête. « Tu as fait un repas de Noël. » C'est ça qui t'a fait grossir. J'ai absolument pas fait le lien avec la puberté. Et du coup, je me suis dit, ok, manger fait grossir, point. Ça en est resté là pendant super longtemps. Et ensuite, ça a fait le lien avec le « Ah oui, j'avais vu sur Internet les calories, là, tout ça ». Tout s'est mis en lien et ça a fait un scénario totalement faux, mais auquel j'ai cru dur comme fer pendant des années. Même jusqu'à il y a 8 mois encore, j'y croyais. J'étais persuadée que quand j'entendais des gens rigoler dans un couloir, je pensais qu'ils se moquaient de mon poids, alors qu'en vrai, je faisais d'autres choses, je les connaissais même pas, les gens. Donc en soi, j'ai jamais eu de remarques sur mon physique, mais c'est moi-même, en fait, qui étais le pire juge. Parce que je sais pas, je voulais aussi garder ce corps d'enfant peut-être, parce que ça arrivait trop vite, ça arrivait brutalement, puis je voyais des trucs sur internet comme quoi être mince c'est génial, donc tout se mettait en lien quoi, c'était il faut être la plus mince pour être la plus jolie, et moi j'ai pas beaucoup d'amis, les garçons me regardent pas, donc c'est que je suis pas assez mince. Avant la puberté, non, j'avais pas de rapport mauvais avec mon corps, mais je me posais beaucoup de questions. Parce que j'avais des amis plus âgés qui avaient plus de forme. Et bizarrement, quand ça m'est arrivé à moi, j'ai pas fait de lien. C'est très bizarre. J'ai toujours été très curieuse. Et du coup, quand j'ai pris mon paquet de céréales et j'ai regardé au dos, j'ai vu le mot calorie, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, je suis restée obsédée là-dessus. C'est vraiment le mot calorie qui est resté mais dans ma tête pendant jusqu'à il y a 8 mois. Donc ça fait pendant 15 ans. Pendant 15 ans. J'ai eu un mot en tête, c'était calorie. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit que j'avais des prédispositions avant, donc vers l'âge de 10 ans, mais que j'ai mis les deux pieds dedans à l'âge de 14 ans, puisque mon corps a changé. Et là, le rapport au corps est devenu plus compliqué. Parce que pour moi, ça voulait dire être grosse. Et pour moi, c'était la pire insulte qui soit. Alors qu'en vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout? Parce que ça prenait plus de place dans les vêtements. Je devais prendre d'autres vêtements avec une taille au-dessus. Je devais acheter des soutiens-gorge. J'avais une amie à moi qui a fait sa puberté à peu près en même temps que moi, mais qu'elle n'a pas pris de poitrine, n'a pas pris de fesses. Elle est restée toute fluette. Elle était aimée des garçons, mais sans rien faire. Pour moi, c'était un gage de beauté à ce moment-là. Ce qui m'a fait aller vers ça, c'est vraiment pour qu'on m'aime, faut que je sois mince, puisque elle, on l'aime et elle est mince. Donc on l'aime parce qu'elle est mince. Chez les autres, j'en avais rien à foutre. Mais je savais que sur moi, ça allait être horrible. Mais alors j'avais des copines, justement, bien en chair. J'avais une très bonne copine qui est obèse, et c'est la plus belle femme du monde. Moi, j'aurais pas les épaules pour porter cette carrure. J'avais peur de la grossophobie, je me dis, les autres, je sais qu'elles ont beau être magnifiques, elles doivent subir ça au quotidien. Moi, mentalement, je peux pas subir ça. J'y arriverai pas. C'est pour ça que je me dis, pour être sûre de pas subir de brimade, je vais être la plus mec possible. Et là, j'aurai aucune remarque. J'ai même eu la malchance de tomber sur un médecin, enfin un interne, qui en soi savait pas ce qu'il faisait, donc c'était pas sa faute. Je lui en veux absolument pas. Pour ma première tentative de suicide, je suis allée aux urgences pour dire, écoutez, je vais mourir, j'ai envie de mourir, mais je sais qu'il faut pas que je le fasse, sauvez-moi. L'interne me pose des questions, je lui dis, je suis anorexique, tout ça, vous pesez combien? Je lui dis mon poids de l'époque, il me dit, oh ça va. Du coup, ça voulait dire, pour moi, tu peux maigrir encore avant qu'on te prenne au sérieux. Il parlait à lui-même, en mode, ça va, elle n'est pas prise en urgence. Elle n'est pas en dénutrition, elle n'est pas... Voilà. Pour moi, c'était l'autorisation d'aller plus loin, ce que j'ai fait. Clairement, il y avait un mal-être, d'où il vient, il faut voir ça avec des psychiatres. Il y a plusieurs pistes que j'ai explorées, notamment avec des médecins. Et oui, me maltraiter, mourir, c'est un suicide à petit feu, puisque je voulais disparaître, en fait. Je voulais pas qu'on me regarde, justement, je voulais pas de remarques sur mon physique. Donc je voulais me faire la plus petite possible pour pas avoir de remarques grossophobes. Plus je me fais petite, plus je disparais, plus je meurs. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je suis née dans une petite ville, laisse tomber. Mais oui, à l'époque, je me dis, pourquoi faire? Vive, de toute façon, à la fin, on crève tous. Mon quotidien jusqu'à mes 18 ans, c'était aller à l'école, avoir des bonnes notes, et puis voilà. Mais une fois que tu dois faire des choix de vie, prendre une orientation, tout ça, alors que tu n'y as pas réfléchi pendant 18 ans de ta vie, t'es un peu paumé, et du coup, t'as pas d'objectif, du coup, tu dis, pourquoi faire? Je serai anorexique toute ma vie, c'est-à-dire comme un alcoolique qui ne peut pas reboire. Moi, je ne peux plus faire de régime. Là, ça fait 8 mois que j'ai arrêté de compter les calories, que je mange normalement, que je sors avec des amis, que j'ai une vie normale, quasi normale. Pourquoi quasi normale? Parce que j'ai besoin du programme de ABA pour aller bien. J'ai besoin des limites que ça m'a fixées. J'ai besoin de rigueur pour pas retomber dedans. Je sais que si je fais pas attention, si par exemple je me mets à sauter des repas, je vais facilement me dire, je saute le prochain. J'arrête de manger. Il faut une certaine rigueur. Manger tous les jours, mes 3 repas par jour, plus ma petite collation. Sinon, si je le prends pas une fois, rien ne m'empêche d'arrêter complètement. Donc oui, je pense que je serai anorexique toute ma vie. En revanche, je suis sobre alimentairement parlant. J'ai mis énormément de temps avant de poser une sobriété alimentaire, en partie parce que j'avais peur. J'avais peur d'être plus rien sans maladie, puisque ça fait plusieurs années que je vis avec. Comme une identité, je suis anorexique. Et du coup, me dire je suis anorexique rétablie, sobre plutôt, ça enlève une part de moi. J'avais pas trop envie. Ce qui me faisait le plus peur par-dessus tout, c'était grossir. Au final, j'ai pris plus de 20 kilos. Depuis le début, depuis le plus profond de la maladie, j'ai doublé de poids. Et en fait, ça me terrifiait parce que j'entendais pareil des amis dire « Bah oui, j'ai pris beaucoup de poids quand j'ai posé ma sobriété alimentaire. Moi, je pesais 40 kilos et être sobre, ce qui ne marche pas. » C'est en prenant du poids que j'ai réussi à soigner ma tête. Je pense aux jeunes filles et aux jeunes hommes complètement dénutris, faut se renourrir avant d'aller mieux. Après, je pense qu'on va tous avoir des avis différents là-dessus, mais personnellement, je sais que tout le temps que je n'ai pas pris du poids, ma tête, on avait beau me bourrer d'informations chez les anorexiques boulimiques anonymes, je n'arrivais pas à mettre les choses en place tant que je n'ai pas accepté de prendre du poids. Mais j'ai mis 6 ans à accepter de grossir. J'aimerais toujours être plus maigre et je pense que je le voudrais toute ma vie. Je m'accepte, j'accepte la personne que je suis, j'aime la personne que je suis. Mon corps, je le tolère. Bah, on veut toujours plus, hein. De toute façon, moi quand je mangeais pas, les rares fois où j'arrivais à sentir la faim, parce que comme je l'ai dit au début, à la fin on sent plus la faim, c'était un shoot d'adrénaline quoi, c'était... je me sentais trop bien, je me sentais trop puissante. Mais c'est comme avec l'alcool, la drogue même, c'était mon truc à moi, c'était mon rail de coke. C'est vraiment, tu manges pas, tu te rends compte, t'as faim, t'es puissant, tu sens le ventre qui se creuse et tout. Enfin, pour moi c'était de la drogue, vraiment j'adorais ça. J'étais très fière d'être anorexique, j'étais très fière d'être maigre, mais je me sentais puissante, parce que c'est moi qui contrôle. Tiens, tu te rends compte? Il y a des gens, ouais, ok, ils contrôlent la pluie, ils contrôlent le vent, et moi, je contrôle ma faim. Et tu te rends compte, ça, je suis trop forte. On s'en sort. Parfois, ça peut prendre beaucoup de temps. Vraiment beaucoup de temps. Moi, ça a mis longtemps, mais j'en connais, ça a pris encore plus de temps. Il y a des gens, ils ont plus de 50 ans, et ils s'en sortent. S'il y a des gens qui commencent à sombrer là-dedans, je me dis, c'est maintenant qu'il faut agir. Ça sera un peu plus dur après. Agir maintenant, et pour peut-être un petit mot pour les parents aussi, vous ne pouvez qu'accompagner, écouter, être présent. Mais vous ne guérirez pas à la place de votre enfant.
Je suis à la convention de Pierre et très émue de tout ce partage, de toutes ces émotions, de toute cette convivialité, de tout cet amour. J'aime pas trop les diagnostics, mais disons que je souffre d'anorexie et de boulimie, mais j'ai honte d'être boulimique. C'est bête, hein, mais l'anorexie, c'est le contrôle. Donc d'une certaine manière, je suis fière d'être anorexique et je suis honteuse d'être boulimique. Je suis pas très satisfaite de mon poids, je suis pas très satisfaite de mon image, même si ça va mieux qu'avant, parce que quand j'étais au fond de l'anorexie et que j'étais plutôt maigre, j'aimais pas mon corps, encore moins qu'aujourd'hui, et que je me trouvais grosse alors que j'étais maigre. Aujourd'hui, j'accepte plus mon image. D'ailleurs, je vais faire un shooting photo au mois de février pour me réconcilier avec mon image et pour essayer de trouver qui je suis. J'ai commencé, j'étais adolescente, j'avais fait un régime de moins de 1000 calories. J'ai sans cesse fait des régimes, ça fait très longtemps, des restrictions, des compulsions. Quand j'étais petite, je volais des chocolats dans le tiroir et je laissais les papiers, donc ça se voyait que j'en prenais. Et puis aussi, une fois, je sais que m'étais restreinte parce que je savais que j'allais avoir un gros repas après. Et j'ai failli tomber dans les pommes plusieurs fois parce que j'avais pas assez mangé. Je suis dans une structure pour personnes avec des problèmes psy. On m'a proposé une hospitalisation parce que j'étais vraiment plus mal. J'arrêtais pas de maigrir, j'ai perdu presque 50 kilos en un an. Et en fait, je refusais cette hospitalisation. Dans ma résidence, j'en ai parlé à une éducatrice. Et l'éducatrice a recherché, elle est tombée sur les anorexiques et boulimiques anonymes. Donc je leur ai téléphoné en leur demandant « Mais est-ce que je dois me faire hospitaliser ?» Et là, on m'a répondu qu'ils étaient une association de personnes qui sont malades. Et donc, ils ne pouvaient pas me dire s'ils n'étaient pas des professionnels, si je devais me faire hospitaliser ou pas. Mais qu'ils étaient un groupe accueillant de personnes souffrant de cette maladie. Et que je pouvais y avoir ma place et que je pouvais parler. Ça fait 2 ans et demi. Ça fait 2 ans à peu près que je suis rétablie. Je situe les 2 ans de rétablissement à ma sortie d'hospitalisation. Parce que pendant mon hospitalisation, je faisais encore des crises d'anorexie, pas de boulimie parce que je ne pouvais pas. Par contre, ça va faire 4 ans que j'ai pas fait de tentative de suicide, donc là j'en suis fière. J'ai un parrain avec qui ça se passe très bien. C'est quelqu'un qui rétablit depuis très 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 longtemps, qui peut bien me guider sur la voie du rétablissement. Et je commence à quitter la sobriété de contrôle pour entrer dans une véritable sobriété, même si j'ai pas encore la sobriété émotionnelle. Une personne qui souffre de troubles psy comme la schizophrénie ou la bipolarité, en l'absence de symptômes, on dit qu'elle est stabilisée. La maladie est toujours là. Mais elle n'en souffre plus, elle est stabilisée, quoi. Donc moi, je me considère aussi comme ça, c'est-à-dire que je porte toujours la maladie en moi. J'ai des fonctionnements malades, j'ai un mode de pensée qui est malade et je le resterai à vie. Je ne dois pas oublier d'où je viens pour aller vers le futur et surtout pouvoir aider les autres qui souffrent encore. La première année, je n'ai pas pu y aller à la convention parce que j'étais hospitalisée, mais après, j'ai fait toutes les conventions et tous les congrès. se rencontre pour de vrai, parce que moi j'ai pas la chance d'avoir un groupe près de chez moi. Donc là on se rencontre pour de vrai et on échange, on se donne de l'amour, on se donne de la compréhension, de la confiance. On peut se prendre dans les bras, on peut se faire la bise, on peut se tenir dans la main pour faire la prière de la sérénité. C'est vraiment un grand moment pour moi qui me remplit de bonheur et d'émotion. Pour moi ça aurait été impossible il y a 3 ans, j'aurais évité ça à tout prix, quitte à perdre la convivialité. Donc j'imagine que pour ceux qui ne sont pas encore établis, ça doit être très très difficile. Et même pour moi, c'est encore difficile parce que j'ai eu du mal à me resservir alors que j'en avais envie. Je me compare aux autres, c'est-à-dire que je me dis, ils mangent moins, donc je dois manger moins aussi. J'ai toujours ce fonctionnement-là, même si j'essaye de faire taire cette voix et de me dire, écoute, tu manges à ta faim, tu n'écoutes pas les autres, tu ne te compares pas aux autres, tu assumes. C'était chouette, ouais. Il n'avait qui chanter, il n'avait qui danser. Après, moi, je me suis isolée un peu du groupe parce que j'avais la tête pleine de musique et j'avais besoin de calme. J'ai raconté des histoires à des enfants. Ça m'a bien plu, cette convivialité, cette chaleur entre chaque membre des ABA. Les ABA m'ont permis d'être en vie, m'ont sauvée. Et je suis là aujourd'hui, j'ai plus envie de mourir, même que j'ai peur de mourir. Donc c'est un bon signe, je suis contente d'avoir peur de mourir parce que je me dis que ça veut dire que je tiens à la vie et que je suis heureuse d'être en vie.
ABA est une association de soutien et d'entraide pour les personnes sujettes aux troubles alimentaires. Si vous pensez être concerné, n'hésitez pas à vous diriger vers cette association. Vous serez toujours reçu avec bienveillance. Chers auditeurs, je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve le mois prochain pour un prochain volet de Repartons. Et d'ici là, bonne écoute sur nos ondes.
Repartons à écouter sur Radio HDR. Retrouvez les podcasts de Repartons sur Spotify et YouTube.
Le super son des 60s. Une émission qu'elle est vachement bien présentée par Léonard Michalon. Gohan, nous dit le colonel. Salut à tous et bienvenue dans le super son des 60s, le meilleur de la plus belle des décennies, vachement en vinyle et presque en direct avec au programme ce jour Michel Richard. Celle-là, elle venait du Québec, The Shots. Là, on sera en direct avec la scène mods britannique du milieu des années 60. Marianne Fisher, un petit peu de blues, pourquoi pas l'excellente Margot Gourian, Anne Castle aussi, sur laquelle je n'ai rien trouvé. Et puis, on va ouvrir, bien entendu, avec notre duo filles-garçons, j'ai nommé Kim Weston et Marvin Gaye. Bien entendu, nous sommes ici dans la soul et le morceau It Takes Two, écrit lui aussi par un duo, bah oui, duo filles-garçons de la maison Motown, deux épées, Sylvia Roy, une fille qui a aussi écrit et composé pour le jeune Stevie Wonder, et Will Stephenson, le tout étant paru sur le label Tamla. Marvin Gaye, bon, on ne le présente plus, on le connaît bien. Il a fait pas mal de duos. Alors, on se souvient bien sûr ses duos avec Tammy Terrell pour l'éternité. Et il a aussi chanté avec donc Kim Weston, Agatha Natalie Weston de son vrai nom, une soul sister, elle aussi, qui poussera sa carrière jusqu'en 1990. Pas mal. Deux albums en duo pour cette fille avec Marvin Gaye donc et avec Johnny Nash.
Come true, yeah. One can stand alone in the dark. Two can make a love. Thank you.